RMC, le week-end des experts. 9h-10h, votre vie numérique. François Sorel, Raphaël Grabli.
Il est 9h17, c'était RMC, le week-end des experts. Et après le jardin, après la maison, après la forme, la santé, c'est la vie numérique. C'est comme ça chaque samedi matin sur RMC. Raphaël Grabli, bonjour.
Salut François.
Alors Raphaël, le salon de l'IFA, c'était cette semaine à Berlin. Si on attend, on en parlera tout à l'heure parce que c'est un rendez-vous quand même important dans le monde des nouvelles technologies.
Ça, c'est un des rares salons grand public, c'est ouvert au public.
Les Berlinois peuvent y aller visiter les nouvelles technologies.
Pour ça, c'est quand même une bonne chose. Et puis, comme chaque année, c'est vrai qu'il y a des annonces. Alors, on va dire qu'ils font plus ou moins rêver. Hein. L'IFA, c'est quand même assez conso, etc. Mais il y a quand même une tendance qui est intéressante. C'est l'arrivée quand même des télés 8K. Alors, on a beaucoup parlé de 4K. Avant la Coupe du Monde, et ben voilà, la 8K est déjà là, mais on va peut-être avoir le temps d'en discuter à la fin. Je pense que tu seras plutôt d'accord avec moi sur la conclusion.
On verra ça dans quelques minutes. Et puis bien sûr, vos questions vie numérique. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes tous entourés d'écrans, qu'ils soient grands ou petits. On a forcément des questions hein, avec tout ça. N'hésitez pas, vous pouvez joindre RMC au 3216 ou via l'appli RMC Direct Studio. Vous pouvez directement poser votre question via votre smartphone. Vous savez que nous sommes connectés. Raphaël, pour débuter, on va parler justement des smartphones et attention à la santé de vos mains à cause d'une utilisation excessive de notre smartphone.
Effectivement, alors c'est vrai qu'on parle souvent de l'utilisation des smartphones, des dangers physiques hein, et de l'utilisation des smartphones, notamment pour les yeux avec la lumière bleue. Alors on a eu les fabricants qui ont mis en place des petites applications ou alors carrément des fonctions anti-lumière bleue pour le soir, pour pas que ça excite, etc. Et puis forcément pour reposer un petit peu...
On avait un invité tout à l'heure dans la maison, je sais pas si tu l'as entendu, entre 8 et 9.
Vous avez parlé des ampoules.
Entre 7 et 8, pardon, qui nous disait que la lumière bleue était inoffensive. Alors je ne sais pas si... Le débat est tranché ou pas.
Alors d'un point de vue, alors justement, on a la chance d'avoir Christian Rica qui est resté à mes côtés.
Son hélicoptère l'attend toujours.
Voilà, mon hélicoptère, c'est un vélo à deux roues. et donc l'idée, et merci de m'accueillir, mon cher Raphaël, et merci François. Précisément, la lumière bleue. Nous n'avons encore pas de conclusion scientifique sérieuse sur le sujet. Il y a encore des doutes. Et la présidente du Congrès international d'ophtalmologie, dans ce congrès, en mai prochain, fera des conclusions. Et on aura en mai prochain la possibilité d'avoir un recul.
Pas la peine de s'affoler.
Voilà.
Il faut pas céder à la psychose. C'est un peu comme les ondes des téléphones portables. Voilà.
Il faut rester raisonnable.
Après, pour la lumière bleue, il y a deux problématiques, entre guillemets. On va rester un peu là-dessus, mais il y a le danger pour la rétine, pour l'œil, mais il y a aussi tout simplement le fait que ça empêche de dormir.
Oui, voilà. Et c'est un effet endocrinien.
Voilà.
C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau ça c'est totalement prouvé.
Donc rien que pour ça.
Pour ça que tout à l'heure j'ai dit
soir,
dans le sommeil, il faut dormir dans le noir absolu.
Voilà.
Et le fait d'avoir un téléphone à côté de soi, il y a des perturbations périphériques que le téléphone peut vous lancer. Vous mettez le téléphone loin de la chambre, dans un tiroir.
Raphaël, faut mettre le téléphone loin de la chambre.
Oula, c'est compliqué ça. Je le mets en mode avion déjà, je le mets en mode avion.
C'est vrai?
Quand je dors, toujours en mode avion.
Voilà.
Mode avion.
Et il n'y a pas de perturbation, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de...
En fait, on
déconnecte tous les réseaux du téléphone, donc il n'est plus allumé en quelque sorte. En tout cas, il ne reçoit plus de notification.
Et alors, donc justement, pour revenir sur le sujet, donc on a parlé un petit peu de la lumière bleue. Il y a un article qui est paru sur le site Slate cette semaine. Ils ont interrogé en fait un professeur d'ergonomie et un chirurgien orthopédique.
Je suis très content que vous fassiez ce sujet parce
sur
que
le fait.
Enfin, alors, on parle de choses concrètes.
Alors voilà,
du quotidien.
Sur une autre problématique, qui est celui de la main, parce que en plus de regarder son smartphone, on le tient. Et quand on le tient, qu'est-ce qu'on fait? On fait deux choses. Déjà, on le supporte avec son petit doigt. Un petit doigt qui est pas forcément fait pour supporter un poids de 200 grammes. Et puis, avec les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait aussi? On scrolle.
Et
on
scrolle, c'est-à-dire qu'on
fait défiler.
On
a le pouce qui n'arrête pas de faire défiler à l'infini. Hein, c'est le principe des réseaux sociaux. Et donc, alors, ce que je dis là, on va relativiser, c'est-à-dire que je ne me base sur aucune étude. Il n'y a pas encore de recul scientifique là-dessus. Alors, par contre, il y a des médecins, et notamment des radiologues, etc., qui ont constaté des nouvelles formes de tendinite, notamment au niveau du pouce.
C'est du vécu, c'est-à-dire qu'en fait, ce que vous venez remarquablement d'expliquer, Raphaël, c'est qu'en fait, j'adore Raphaël. Monsieur. Et nous sommes en train de constater que le pouce chez l'humain est en train d'être stimulé, et les aires neuronales du pouce au niveau temporales sont en train de se développer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, il y a des tendinites. Et ça, ce sont des éléments patents parce que nous avons véritablement des patients. C'est un sujet que je travaille en ce moment. Et nous avons des patients qui se plaignent de. Donc, il faut tout simplement changer de main. Il faut donner des choses simples. Ça paraît banal, hein, mais il faut penser à des choses banales parce que soigner une tendinite au niveau des muscles du pouce, c'est extrêmement compliqué.
Oui, et puis alors en plus, ça c'est du vécu. Enfin, j'ai mon père et je trouve qu'il est médecin et il me dit qu'il voit déjà depuis des années, avant même le smartphone, des nouvelles tendinites liées ne serait-ce qu'à la souris.
Mais bien sûr.
À la souris. Alors là, on est dans le numérique.
Est-ce qu'on a eu des tendinites des doigts à cause de la souris?
Oui.
Christian, vous avez entendu
oui.
ça déjà?
J'aimerais rajouter un point puisque vous passez à la souris. Le téléphone apporte d'autres éléments sur lesquels il faut être attentif, et quand vous avez fait attention à cela, vous rectifiez tout de suite les éléments, c'est qu'en fait, le téléphone provoque des cervicalgies, parce que vous avez la tête baissée. Donc quand vous regardez votre téléphone, regardez le téléphone, la tête haute.
Et puis comme ça, on pose pas le coude aussi, parce
voilà,
qu'il y a le coude
c'est
derrière.
Important. Le téléphone provoque aussi au niveau des yeux, quand l'écran est trop petit, c'est pour ça que personnellement, humblement, j'aurais aimé demander à nos auditeurs d'acheter des plus grands écrans afin de lire plus aisément.
Oui, mais alors quand on achète un plus grand écran, le smartphone est plus lourd.
Ah oui, très bien.
Alors faut faire attention parce que effectivement, alors par contre, il y a des fonctions dans les smartphones qui permettent
on peut élargir les
caractères. On peut aller jusqu'à des tailles de caractères assez larges.
Ensuite, il y a l'élément qui est aujourd'hui prouvé, c'est que quand on met le téléphone toujours contre l'oreille, il y a au niveau cutané, oui. Des perturbations cutanées.
Ah bon?
Et oui, parce que simplement le téléphone n'est pas forcément propre et on peut se mettre autour de l'oreille des mycoses, etc. Donc il faut y penser. Donc la propreté de la périphérie de l'oreille est un élément à intégrer.
Christian, j'avais juste une petite question. Raphaël, peut-être que tu envisageais aussi de d'évoquer ce sujet. On dit souvent que le téléphone portable est une mine de bactéries et de trucs odieux.
Raphaël en a parlé il y a une petite année et il avait tout dit, c'est qu'effectivement, il y a des produits qui permettent de désinfecter le téléphone, et il y a aujourd'hui nécessité de nettoyer son téléphone. Écoutez-moi bien, Raphaël l'a dit il y a un an, c'est tout simplement autant que les mains. Ouais. Vous devez nettoyer votre téléphone autant que vos mains, et vos mains, c'est 2-3 fois par matinée.
Mais comment on nettoie le téléphone? Alors on peut pas le mettre sous l'eau avec du savon.
Personnellement, moi je le nettoie 2 fois par jour. Ce que je dis n'est pas forcément, on va dire, recommandé officiellement, parce que c'est pas un produit spécifique, mais moi je mets tout simplement de la biseptine.
Oui.
En spray.
Et je
sur
voudrais,
un mouchoir,
je voudrais
un
dire
mouchoir
que le téléphone doux. De Raphaël est absolument
et
impeccable.
Voilà.
Impeccable.
Je mets de la biseptine.
C'est quoi la biseptine?
C'est un
désinfectant.
Un désinfectant. Alors,
est-ce que c'est mauvais pour l'écran?
Alors, justement, on dit que c'est pas très bon pour l'écran. Moi, ça fait des années que je fais ça. Je n'ai jamais eu le moindre problème.
Mais tu fais pipsite sur l'écran.
Alors,
et après, tu frottes avec
sur un mouchoir doux. Pas sur du sopalin parce que ça peut rayer, sur un mouchoir doux.
Essuie-tout.
Et je nettoie. Oui, de l'essuie-tout, pardon.
Et puis vous dire aussi que...
Et, voilà. Je fais ça, et en plus, non seulement ça...
Un chiffon doux, quel type de chiffon doux?
Non, un mouchoir.
Un mouchoir.
Enfin, un Kleenex, tu vois, je m'arrange pas.
Donc,
un mouchoir jetable en papier. Je fais ça le soir, par exemple, en rentrant, parce que c'est vrai que si on est dans le métro, etc., on touche le métro, après, on touche son smartphone. Si on se lave les mains et qu'après, on reprend son smartphone dans les mains, ça sert absolument à rien.
C'est sûr.
Donc, il faut le faire ensuite, avant de se laver les mains. Et là, effectivement, et non seulement on a un smartphone qui est propre, et puis en plus c'est très agréable, il est plus gras et on a l'impression d'avoir un smartphone neuf.
On se lave les mains, on lave le téléphone.
C'est très agréable. Ouais, voilà.
Effectivement, c'est très concret.
Mais Raphaël est au top. Hein,
oui, absolument.
Christian, merci beaucoup d'avoir...
C'est moi, un grand plaisir.
...prodigué tous ces petits conseils.
Merci Raphaël.
On revient dans un instant. Dans un instant, et on attaque notre sujet de ce samedi. On va parler des vacances ratées. Quelles sont les solutions pour se faire rembourser en ligne? Et nous avons le plaisir d'accueillir un spécialiste. C'est Maître Alain Bensoussan qui va nous donner tous ses conseils dans un instant. À tout de suite, c'est le week-end des experts, la vie numérique. On revient dans une minute.
T'as les billets, Alex ?
Non, c'est toi qui les as.
Non, je sais pas, c'est toi qui les as. Alex.
Je te les ai donnés dans la voiture, Loulou, je t'ai donné les deux billets.
RMC, 9h-10h.
Tu les as pas rendus puisque je me suis dit, tiens, il a gardé les deux billets.
Tu les as mis dans ton sac, les billets.
Alors, tu sais ce que t'as fait, tu les as mis dans le parcelet.
Votre vie numérique.
Ils sont pas dans la bagnole.
De quoi ?
Les billets.
Ah, mais tu vas rire, ils étaient dans mon sac.
François Sorel, Raphaël Gravely.
Ah, les vacances. Bon, écoutez, les vacances, c'est en tout cas pour beaucoup d'entre vous la fin, hein, c'est la rentrée lundi. Après, il y a tous ceux qui ont la chance de pouvoir partir en vacances en décalé en septembre.
Ça c'est vraiment la chance.
Hein. Ben oui, quand on n'est pas lié à une activité professionnelle, on peut partir quand on veut, c'est le top. Quand on n'a pas d'enfants, par exemple.
Ouais.
Mais bon, c'est vrai que pour la plupart d'entre nous, la rentrée arrive. Comment se sont passées ces vacances, justement? On va l'évoquer, ce sujet, parce que parfois... Ben, y a des grains de sable qui rentrent dans les rouages, des problèmes d'avion qui ne partent pas ou qui partent pas à l'heure, qui font rater des correspondances. On arrive des locations de vacances qui ne correspondent pas forcément aux photos Instagram plutôt jolies qu'on avait regardées. Enfin bref, des petits trucs qui font que parfois on peut avoir des vacances ratées. Hein,
oui, et puis c'est vrai que maintenant, la plupart de nos auditeurs, enfin beaucoup de Français réservent leurs vacances en ligne. Donc ça crée encore des nouvelles problématiques parce que parfois, on a des intermédiaires et effectivement, on ne sait plus trop vers qui se tourner. Alors, en studio avec nous, on a Maître Alain Bensoussan. Bonjour. Vous êtes avocat...
Vous avez passé de bonnes vacances? Vous n'avez pas eu de vacances ratées?
Non.
Alors, vous êtes avocat spécialiste en droit du numérique et des technologies avancées. Alors, c'est vrai que parmi nos auditeurs, on a eu régulièrement des messages, notamment, par exemple, avec les épisodes de grève chez Air France, notamment, ou les problèmes avec la SNCF, etc. Alors, par exemple, j'ai mon vol qui est annulé, c'est la question qui revenait le plus souvent, hein. J'ai mon vol qui est annulé, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me tourner vers la compagnie? Est-ce que je dois tout de suite me tourner vers mon assurance si j'ai réservé avec une carte bleue? Voilà. Quel est le premier réflexe à avoir?
Le premier réflexe à avoir en matière de transport, lorsqu'on a des soucis, c'est de faire une réclamation auprès du transporteur. C'est vraiment l'action principale. Il faut réagir et le plus rapidement possible. Dans l'annulation, dans un délai de 7 jours, on obtient a priori le remboursement, dans la majeure partie des cas. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe... Regardez le contrat. Il n'y a pas de conditions. Il y a des éléments communs, mais très souvent, c'est dans le contrat, tout le contrat et la fiche d'information que vous aurez tous les éléments pour cela. Donc, s'il y a annulation, vous demandez le remboursement ou de trouver un autre vol très proche.
Alors, qu'on soit bien clair, hein, là, on va parler du transport de façon plus générale. Mais quand un vol est annulé, la compagnie doit nous trouver une solution. Est-ce qu'elle est obligée de nous rembourser ou est-ce qu'elle est obligée de nous trouver une solution pour arriver à destination d'une autre manière?
Cela dépend de trois situations. La première situation, incident climatique, difficulté météo de toute nature, elle n'a aucune responsabilité.
Cas de force majeure, on va dire là.
Oui, c'est pas vraiment de la force majeure, mais ce sont ce qu'on appelle des éléments externes. Mmh. Il y a les forces majeures aussi, un tsunami ou autre, bien évidemment. Mais dans la plupart des cas, c'est des conditions météorologiques ou des conditions liées à l'aéroport. Et dans ce cadre-là, elle n'est pas responsable. Elle est responsable que de son fait. Et si elle annule, alors elle peut annuler pour plusieurs raisons. Elle peut annuler parce que des problèmes techniques, mais elle peut annuler aussi pour des problèmes de surbooking. Donc le principe, c'est elle tente un réacheminement, voire de vous laisser une place si vous êtes en surbooking. Et sinon, évidemment, si vous faites une demande, dans un délai de 7 jours, elle vous obtient, elle accepte, a priori, sauf cas particulier, de vous rembourser. C'est un point important, sous réserve, bien évidemment, qu'elle n'ait pas informé l'annulation 2 semaines avant. Et là encore, tout est question ici de balance entre les intérêts légitimes. Et puis, il y a une indemnisation. Il y a une indemnisation qui est en fonction du kilométrage. Là, il faut faire un peu attention entre les compagnies de l'Union européenne, où on est parti de l'Union européenne, pour faire très simple, et puis les autres compagnies. Dans le cadre des compagnies de l'Union européenne, alors il y a une indemnisation complémentaire, elle dépend du kilométrage, je vous le donne, mais vous l'avez dans tous les contrats, c'est 1500 kilomètres, c'est 250 €, 3500 kilomètres, c'est 400 €, et au-delà, c'est 600 €, avec si des retards...
par exemple, puisque c'est la même chose pour les retards. S'ils sont inférieurs à 2 heures, c'est plutôt 125. Si c'est 3 heures, 200.
Oui, donc
c'est
4
heures.
Retard,
vous voyez, à chaque fois, il y a des conditions.
Enfin, plus le départ est retardé, là, plus on touche de l'argent, finalement.
Voilà. La question, c'est est-ce que j'ai le droit à quelque chose? La réponse est clairement oui.
Oui,
donc,
évidemment.
Il y a des sites spécialisés. Par ailleurs, il y a les associations de consommateurs.
Justement, on va en parler.
Voilà. Donc, oui, réagissez.
Maître et Raphaël, nous avons Odile au 32-16 qui veut témoigner ce matin. Et d'ailleurs, puisqu'on évoque ce sujet, dites-nous comment se sont passées vos vacances. Surtout si vous avez un petit problème. Appelez-nous au 32-16 ou via l'appli RMC Direct Studio avec votre numéro de téléphone. On pourra vous entendre. Odile, bonjour.
Bonjour. Alors moi, mes vacances se sont très bien passées.
Vous étiez à Los Angeles, c'est ça?
Oui, complètement, avec mes deux petites filles.
D'accord. Ça s'est bien passé. Qu'est-ce que vous avez fait à Los Angeles?
Eh ben, les parcs, j'ai eu la chance d'être reçue chez des amis qui nous ont vraiment reçus merveilleusement bien.
Ah oui, c'est
et
chouette.
Et nous avons donc fait une semaine Los Angeles et une semaine San Francisco. Voilà, donc et puis on a visité des amis et ça, pour mes filles de 10 ans et de 13 ans, ça a été un enchantement.
Ça, c'est des voyages inoubliables en effet. Et alors, bon, tout s'est bien passé, sauf qu'au bout d'un moment, vous repartez et là, patatras.
Oui, lundi 20, donc nous nous présentons très tôt à l'aéroport dans la mesure où il y a beaucoup d'embouteillements à Los Angeles. Donc, nous étions donc pour à l'aéroport à 12 heures pour partir à 16 heures. Et à 16 heures, pas d'avion, puisqu'il y avait un ennui technique. Donc là, nous étions, tout l'avion était dans le même cas de figure, mais il y avait 13 personnes pour aller jusqu'à Toulouse. Donc, on nous a déroutés, on nous a mis à l'hôtel pendant 4 heures, dans un hôtel somptueux. 4 heures après, nous nous sommes représentés donc à l'aéroport.
Oui.
Et là, on nous a déroutés sur Chicago. Chicago, nous avons pris donc American Airlines pour aller sur Londres. À Londres, alors on leur a demandé. Le personnel aérien a été vraiment très coopératif. Hein.
Oui.
Vraiment, chapeau. Donc, arrivé à Londres, Londres nous a laissé planter et on voyait l'heure passer. Donc, on a raté notre correspondance pour Toulouse. Donc nous étions le mardi 21, fin d'après-midi, début de soirée. Nous avons donc été déroutés sur, au lieu d'aller à Toulouse, nous avons été déroutés avec la Lufthansa sur Munich.
Ah oui, vous avez fait quand même le tour de tour du monde, oui. Pratiquement, c'est pratique.
Mais ça, c'était très bien pour les petites filles, ça.
Ah ça, c'est clair. Concrètement, Odile, bon, après Munich, j'imagine, vous êtes arrivé quand même à destination
oui,
ou pas?
75 heures après, nous avons donc atterri à Toulouse.
Donc, vous avez eu 75 heures de retard par rapport aux horaires de départ?
Voilà. Et donc,
ça commence à faire.
À Toulouse à 23 heures.
Oui.
Le mercredi. Il y avait un enterrement de prévu puisque notre grand-père venait de mourir donc, le vendredi matin. Donc, c'était un petit peu short. Et arrivé à 23 heures, pas de bagages. Pour l'ensemble des 13 passagers.
La cerise sur le gâteau, comme on dit.
Oui, mais si vous voulez...
Et ils sont arrivés quand, les bagages? Parce qu'en général, ils reviennent après.
Le vendredi, ils nous ont été livrés le vendredi dans l'après-midi.
Ah oui, d'accord. Bon, une semaine après, quoi.
Oui, ben, presque. Mais voilà, donc...
Et alors, qu'est-ce que vous avez contacté la compagnie aérienne? Qu'est-ce qu'on vous propose comme dédommagement, là?
Nous sommes allés chez Carrefour, chez qui nous avions acheté les billets d'avion, puisque nous n'avions pas d'intermédiaire.
Précisons pour tous ceux qui ne le savent pas que Carrefour a aussi des agences de voyage, hein, parce qu'en général, on se dit, tiens, pas chez Carrefour, acheter les billets d'avion,
alors,
mais...
Carrefour, là, très gentiment, nous a très bien accueillis, mais il ne pouvait rien faire. Donc, nous sommes allés sur le site d'Iberia, une journée après, pour vraiment faire une réclamation pour les 4 passagers. Et la question que nous nous posions, est-ce que nous pouvons prétendre faire une autre réclamation par rapport à Londres, si American Airlines et Londres qui nous a fait rater notre avion pour Toulouse?
Maître, bon courage, on vous laisse une heure. Nous, on va y aller avec Raphaël, hein. On va se prendre un café.
Oui, on descend.
T'as de l'argent pour les croissants?
Oui, c'est bon,
aussi,
j'ai de la monnaie.
Maître, on vous laisse, vous éteignez à la fin, hein.
Oui, dans le studio, c'est clair. C'est vraiment pas de chance.
Non, mais
c'est
vraiment pas de chance. On plaisante.
C'est vraiment pas de chance et, il faut vous adresser effectivement à la compagnie d'origine parce qu'ensuite, on a une cascade de conséquences et donc c'est vraiment à la compagnie d'origine sur laquelle il faut faire votre réclamation.
Mais elle peut prétendre à quelque chose quand même.
Elle peut prétendre, si ce n'est qu'on a essayé de trouver des solutions, donc de réacheminement en characheminement, elle a trouvé une solution. Alors après, oui, c'est en fonction du préjudice, mais ce préjudice...
Il y a un préjudice, on voit, il y a eu un décès dans sa famille, elle est arrivée avec crack, ses bagages sont arrivés en retard, etc. Donc là, on peut imaginer qu'il y a un préjudice moral, non?
Les indemnisations sont forfaitaires, et ensuite de ça, il faut amener des preuves, et c'est pas facile à faire.
Est-ce que les compagnies aériennes peuvent faire des gestes commerciaux?
Oui, ils peuvent. Là, il faut regarder sur le site. Mais
ou envoyer un petit mail en leur expliquant.
Un petit mail, ça suffit pas. En général, il faut quelque chose d'un peu plus soutenu.
Un peu
oui, parce que on connaît pas les circonstances, mais dans tous les cas de figure, on voit bien qu'ils ont essayé de trouver des solutions.
Oui, et justement, le témoignage d'Odile, ça soulève un problème qui est de plus en plus important aussi, c'est les intermédiaires. Parce que là, la réservation s'est faite alors par une agence de voyage, mais en ligne de temps en temps, même maintenant de plus en plus souvent, on réserve directement sur un comparateur de prix.
Oui.
Et donc, on ne sait plus tellement à
qui...
Agences en ligne. Et alors, forcément, maintenant, quand on tape Paris-New York ou je ne sais pas quoi sur Google... On a une liste, alors 100% quasiment des résultats, ça va être du comparateur en ligne. Si on fait pas attention, on va réserver directement par ce comparateur en ligne. Et donc comment ça se passe une fois qu'on a un problème? Est-ce qu'il faut s'adresser à ce comparateur ou encore une fois à la compagnie?
Là encore, ça dépend beaucoup. Si on doit donner un conseil, c'est de faire très attention. Il n'y a pas de notion de bon sens à ce niveau-là. Il y a des cadres juridiques plus ou moins complexes. Il faut savoir qu'il y a autant de différences qu'il y a de moyens de transport. Et qu'ensuite, à l'intérieur de ces moyens de transport, il peut y avoir des différences importantes. Et donc, il faut lire le contrat, faire sa réclamation auprès de la personne qui a été l'interlocuteur en général pour le contrat et le paiement. Et ensuite
donc
de
plutôt
ça...
Plutôt le comparateur.
Plutôt le comparateur. Ensuite et ensuite de ça, prendre une assurance. Enfin, considérer qu'aujourd'hui, tout va bien se passer. C'est une prise de risque.
Ouais, lire le contrat, maître. Alors, je suis désolé, mais franchement, qui lit les contrats?
Mais pas personne.
Alors, vous, parce que c'est votre job.
Ou même pas, mais même pas à titre personnel. Le cordonnier est moins bien chaussé.
C'est le conseil qu'on donne en numérique, notamment, qui est malheureusement le premier conseil que personne ne suit, parce que personne ne peut le suivre.
Mais en plus, ça, c'est des pages et des pages.
Mais que ce soit pour les achats en ligne, pour les réseaux sociaux, pour les données personnelles, il faut lire les contrats. Ouais. Évidemment, personne le fait.
Oui, mais il faut pas se baser aujourd'hui sur le bon sens. Il y a trop de différences. Il y a trop de guerres par les prix, par la qualité. Les différences s'expliquent peut-être par la productivité, mais souvent par les garanties et les éléments associés. C'est dans ces différences, aux limites, que se fait la différence de prix.
Maître Raphaël, on revient dans un instant. Il est pratiquement 10h moins le quart, le temps passe vite. Et on va poursuivre sur ce sujet. A tout de suite, c'était RMC.
Les grandes gueules sont sur la nouvelle appli d'RMC. Téléchargez-la maintenant.
Raphaël Grabli, attention, il est temps de retrouver une petite question flash. Ah oui, c'est la rentrée pour la question flash aussi, Raphaël. Hein? Et c'est la question de Raphaël, justement. Bah tiens, mais c'est pas toi, hein, je pense. Concernant la rentrée, existe-t-il des applications pour contrôler la consommation téléphonique de nos enfants?
C'est vrai qu'en général, les enfants, on a laissé un petit peu le smartphone, la tablette pendant les vacances. Ah oui. Et puis
là, ils ont le pouce qui a scrollé. Hein,
alors là, le pouce, il y a une petite rééducation du pouce à faire. Oui, évidemment, il existe des solutions pour, on va dire, remettre un peu les enfants dans le bain. Les premières bonnes nouvelles, hein, les fabricants, notamment les concepteurs de logiciels, à commencer par Google avec Android et Apple avec iOS, ont prévu des solutions à partir des prochains mois, dès les prochaines versions d'iOS et d'Android. Il y a des nouvelles fonctions qui vont apparaître. Alors, on va dire que principalement, ces fonctions sont destinées un peu à combattre l'addiction, qui vont permettre à l'utilisateur de paramétrer son téléphone pour mettre des limites d'utilisation. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on va pouvoir se mettre 1 heure ou 2 heures Donc on va aller, je sais pas, sur Instagram, sur Facebook. Au bout d'une heure, au bout de deux heures, on va avoir une notification. Vous ne pouvez plus utiliser. Alors,
ça bloque l'appli.
Ça bloque l'appli. Ça bloque l'appli. Quand on est parent, forcément, on peut se mettre un petit peu de rab. Mais iOS et Android ont prévu une solution spécifique pour les parents. Donc, avec cette solution sur le smartphone des enfants, on va pouvoir régler une heure, deux heures de réseaux sociaux.
Des drames à la maison.
Ça va faire du drame. Et il y a une autre solution, des applications, notamment une qui s'appelle Copass, qui vient d'être lancée. Là, c'est carrément une plateforme web. L'application l'installe sur le smartphone des enfants. Et on va pouvoir définir des plages horaires.
Ah oui.
Des plages horaires où toutes les connexions, où toutes les applications vont se déconnecter, vont être inaccessibles. Notamment, par exemple, les réseaux sociaux. On peut dire, pendant le dîner, après le dîner, c'est off.
C'est stop. Et là, croyez-moi, ça va être chaud à la maison, hein.
RMC jusqu'à 10h, votre vie numérique, François Sorel, Raphaël Grabli.
Les vacances ratées, ça arrive. En tout cas, on va dire peut-être assombri par des problèmes de transport, des hôtels qui ne correspondent pas aux descriptifs qu'on a pu lire sur le web. On en parle ce matin avec Maître Bensoussan qui est avec nous. Nous avons aussi Alors Eri, Raphaël, qui est porte-parole d'un site que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Air Indemnité.
Ben, on parlait justement de
des
contrats.
Ça a l'air clair. Là, hein,
voilà, on comprend bien, mais on parlait des contrats qu'on ne lit jamais. Donc forcément, il y a des entreprises qui se sont créées
Et qui les lit pour nous,
pour lire les contrats à notre place, et surtout pour faire les réclamations à notre place. Donc c'est le cas d'Air Indemnité. Bonjour Anne Laure Herry.
Bonjour.
Bonjour.
Effectivement, Air Indemnité va faciliter en fait la démarche d'indemnisation du passager aérien dans les cas qu'on citait tout à l'heure, donc en cas de vol retardé, d'annulé ou de surbooké.
Donc c'est-à-dire qu'en fait vous avez des équipes, alors vous n'êtes pas les seuls à faire ça, mais vous avez des équipes qui sont uniquement spécialisées dans la réclamation pour avoir des indemnités. Donc vous avez un site. On va sur le site.
Exactement.
Et alors qu'est-ce qu'il faut vous transmettre? Il faut des preuves, je suppose. Qu'est-ce qu'il faut vous transmettre comme document?
Alors, comme vous disiez si bien, donc les équipes qu'on a en interne, qui sont composées de juristes, vont gérer la totalité de la réclamation, donc auprès de la compagnie aérienne jusqu'à l'obtention des indemnités auxquelles ont droit les voyageurs dans certaines situations. Pour cela, effectivement, il faut passer par notre site internet airindemnité.com. Vous déposez votre demande, vous racontez en gros votre histoire, l'aléa que vous avez subi avec la compagnie aérienne. Vous donnez tous les documents de vol que vous avez, donc les copies, donc ça va être les cartes d'embarquement. Ça va être votre réservation, ça peut être vos étiquettes bagages. Juste que vous étiez à bord.
Une petite parenthèse. La carte d'embarquement aujourd'hui, elle est dématérialisée. On l'a sur l'application. L'imprime plus forcément. C'est valable quand même. Il y a pas de souci.
Vous pouvez faire une capture. Vous pouvez totalement faire une capture d'écran
d'accord.
De votre application et l'envoyer. Voilà. C'est pas un problème pour nous.
D'accord.
Donc et dès lors qu'on a tous ces documents, nos équipes vont monter en fait le dossier de réclamation auprès de la compagnie, apporter un certain nombre d'éléments qui vont permettre le déblocage de l'indemnité forfaitaire de 250, 400 ou 600 euros en fonction effectivement de la distance du vol. Nous allons nous continuer ces démarches si par exemple la compagnie est récalcitrante au versement de cette indemnité. Donc on va monter en quelque sorte le dossier, passer sur des phases plus contentieuses et ça peut aller jusqu'au tribunal avec certaines compagnies et donc en gros on va réellement garder votre réclamation et faire en sorte de faire tout ce qui est en pouvoir pour vous obtenir cette indemnité forfaitaire. Tout seul, en quelque sorte, le passager va arrêter cette démarche, fatigué, lassé, c'est quand même fastidieux, il faut quand même connaître le règlement européen, donc le passager va vite se lasser et donc va vite arrêter là où il pourrait avoir droit effectivement à des sommes qui sont assez intéressantes et importantes en fonction de certains cas.
D'un point de vue financier, comment ça se passe? On vous envoie un dossier. Si on se trompe, on croit qu'on est indemnité, on peut pas en avoir. Bon, vous nous facturez pas, c'est ça,
d'après non, ce que j'ai. Pas du tout.
Si on reçoit une indemnité, vous prenez une commission. Alors je connais pas la commission.
Exactement.
C'est quoi 20%, 30%?
On prend 30%.
30%
de commission, quelle que soit la démarche d'ailleurs. C'est-à-dire que si on escalade cette réclamation et qu'on va au tribunal, ce sera toujours 30%.
Voilà. Alors c'est la question. Mais vous avancez même les frais juridiques?
Exactement.
D'accord, vous payez les avocats.
C'est ça, le passager n'aura rien à débourser, uniquement les 30% que nous allons d'ailleurs prendre directement sur l'indemnité qu'il va obtenir.
Alors, faut être sûr de gagner, parce que si on perd, ça vous coûte cher. Enfin, faut être sûr de gagner,
vous savez que la plupart du temps, vous gagnez.
C'est ça, le passager n'a rien à perdre à déposer une demande chez nous. Il y a une réponse, une petite réponse de principe. Après, il faut quand même étudier chaque cas est différent. Parfois, la compagnie est responsable, parfois non. Donc, il faut bien regarder dans le détail. Entre du déclaratif et les faits, il y a quand même beaucoup de,
bien sûr,
de différences.
Évidemment.
Donc, on va étudier tout ça. Et effectivement, si on n'obtient pas l'indemnité, le passager ne paiera pas ses 30% de commission.
Voilà, et on a bien compris que si vous prenez ce dossier en main, c'est que vous avez des chances qu'il gagne en fait, hein, que vous puissiez toucher ses indemnités. Merci beaucoup Anne-Laure Henry. Donc c'est Air Indemnité. Pour terminer, les hôtels, Raphaël.
Forcément.
Voilà. Alors on a parlé des avions, mais quand ça coince au niveau des hôtels, parce que on a réservé un hôtel et qui correspond pas au descriptif qu'on avait vu sur internet, qu'est-ce qu'on fait?
Oui, là, parce qu'encore plus que les avions, je pense qu'on réserve quasiment toujours son hôtel en ligne. On voit des photos. Ça correspond pas aux photos. Qu'est-ce qu'on peut faire, Maître Bensoussan ?
Deux cas de figure. Soit se mettre d'accord avec l'hôtelier pour trouver une solution.
Toujours le plus intelligent, facile.
C'est toujours le même principe. Je vais à la réclamation directe à celui effectivement qui est débiteur de l'obligation, qui me doit.
Encore faut-il qu'il nous écoute et qu'il
voilà,
soit
commerçant. Souvent, il n'est pas forcément commerçant et souvent il l'a fait exprès. Donc, dans ces cas-là, on a la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts. C'est clair pour publicité mensongère. Et là, ça va dépendre du type de prestation qu'on a acheté. C'est-à-dire, est-ce qu'on a acheté un voyage au forfait avec le transport ou l'hôtel? Est-ce qu'on a acheté des prestations liées où on a le transport? Et puis on a lié quand même aussi l'hôtel, ou est-ce qu'on a traité directement avec l'hôtel, ou on est passé par une plateforme intermédiaire. Dans tous les cas de figure, il faut s'adresser à celui avec lequel on est en première situation de contrat, et dans ce domaine-là, c'est très clair, il faut faire un procès s'il n'y a pas d'accord amiable. Dans le cas du procès, il existe un médiateur. Hein. Il existe un médiateur en matière de tourisme et voyage. Ça vaut le coup de saisir le médiateur. Ou les associations de consommateurs.
Après ces plateformes, alors évidemment il y a, je sais pas, hotel.com, Booking, toutes ces grandes plateformes qu'on connaît bien. Il y a un avantage, un inconvénient. Un avantage, c'est que souvent ils ont leur propre service client. Et forcément, Booking a une pression sur l'hôtelier, puisque Booking est responsable d'une partie de ses réservations. Donc, on peut servir de Booking pour faire pression.
Mais est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils s'en servent? C'est ça.
En général, ils le font plutôt. Ils ont intérêt.
Il y a une régulation. Voilà. Il n'y a pas tant d'affaires.
Il y a une régulation qui est plutôt efficace. J'ai l'impression. Après, il y a un autre conseil que je peux donner. Alors, si on cherche vraiment le prix, et là, on va moins chercher à avoir des assurances, c'est appeler l'hôtelier pour demander une petite ristourne, parce que forcément, ils payent pas les frais de Booking. Mais là, on perd ces plateformes peuvent aussi apporter une sécurité supplémentaire.
Maître, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour tous ces conseils, Raphaël. On se retrouve la semaine prochaine, bien
avec
sûr.
Avec grand plaisir, François.
La vie numérique, chaque samedi entre 9h et 10h sur RMC. Et dans un instant, après la météo et les infos, ça sera les GG du sport. Sarah Pitkowski est là. Bonjour, Sarah.
Bonjour, François. Salut, Raphaël. Et oui, on est là avec Christophe Cissieux dans quelques instants pour parler foot comme de traditionnel pendant une heure avec Ali Benarbia et coach Courbis. On va revenir sur le match Lyon-Nice d'hier. Et une question, le mercato estival vous a-t-il déçu? Voilà.
Les GG du sport dans un instant avec Sarah et Christophe. Passez un bon week-end et moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 6h pour le réveil des experts et ensuite 3h d'automobile avec Jean-Luc Moreau. Bon week-end à vous toutes et à vous tous.